Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans le studio Jean-Orsi de Radio Nîmes 92.2 sur les ondes ou radionimes.fr sur internet, mais toujours Radio Nîmes avec l'accent pour une nouvelle émission de l'art à Nîmes, le rendez-vous mensuel de l'actualité culturelle nîmoise et quelquefois gardoise. L'émission est présentée par Isabelle de Montfuma et Bernard Mouret, mais Isabelle n'est pas présente aujourd'hui, par contre elle a beaucoup travaillé, puisqu'elle nous a laissé deux enregistrements, alors un enregistrement avec Estelle Garnier, la secrétaire générale du Théâtre de Nîmes, et un autre enregistrement avec Maïté Tournier, la responsable de la médiation culturelle du SPOT, et Laurent Kilani, le directeur artistique de l'Expo de Ouf. Mais en attendant, on va un petit peu parler de cinéma, d'abord avec Jean-Sylvain Minsen, et ensuite de musique, avec Georges Bonnet, la directrice de communication de Paloma. Alors on va commencer fort peut-être avec Jean-Sylvain Minsen et on va parler de la Palme d'Or du Festival de Cannes.
Il faut que je crie tout de suite alors non.
Allez, criez.
On démarre par le haut du panier. Alors, Un simple accident, le film de Jafar Panahi, qui est un cinéaste iranien qui a refusé de quitter son pays, qui a été emprisonné pendant de nombreuses années. Qui a été aussi également en résidence surveillée dans son propre pays. Donc il avait interdiction de faire du cinéma. Et il a quand même fait du cinéma, c'est-à-dire qu'il faisait du cinéma la nuit, avec des moyens techniques extrêmement limités, généralement un téléphone portable, très peu d'éclairage artificiel, et dans les voitures, comme ça il pouvait se déplacer dans Téhéran, notamment au fur et à mesure de ses pérégrinations. Je ne sais plus bien, j'ai dû oublier une syllabe, mais ce n'est pas très grave. Donc Un simple accident, présenté au Festival de Cannes, une production française, le film qui va représenter la France aux Oscars l'année prochaine. Donc Cocorico, on est très content au niveau de la production, mais c'est quand même un film qui est très très iranien et sur lequel il nous faut quand même quelques moments clés. Il faut connaître un petit peu la situation politique de l'Iran. Le film raconte l'histoire d'un homme qui a passé des années dans les prisons iraniennes. Et les prisons iraniennes, comme toutes les prisons du Moyen-Orient, se valent les unes aux autres, c'est-à-dire qu'elles n'ont rien à envoyer à celles de l'Irak ou de la Syrie. Donc il a été torturé, il est complètement traumatisé. Et il a un petit boulot dans un garage, et il a un flash comme ça qui lui revient. Il entend le bruit d'une prothèse d'un de ses tortionnaires. C'est-à-dire qu'il y a un monsieur qui rentre dans le garage, et il a le même bruit. Et donc tout le film est une course-poursuite entre ces deux hommes, le tortionnaire, je mets entre guillemets parce qu'on ne sait pas vraiment si c'est lui, et sa famille, et cet homme qui au début cherche à se venger et s'interroge sur sa vengeance. C'est-à-dire que est-ce que c'est parce qu'il a été mauvais avec moi, grosso modo, que je dois être mauvais avec lui ? Est-ce que je dois le tuer ? Est-ce que je dois le faire souffrir ? Est-ce que je dois... Voilà. Donc c'est tout ce questionnement qui questionne quasiment l'après-situation politique en Iran, c'est-à-dire quand l'Iran, parce que les mots-là vont bientôt finir par tomber, enfin je l'espère pour la population iranienne dans tous les cas, il va y avoir ce genre de questionnements qui vont se passer, et je trouve ça assez extraordinaire qu'en pleine... Bon, on sait un peu la situation actuelle entre l'Iran et Israël, c'est pas très facile en ce moment au Moyen-Orient, les implications des uns et des autres dans ce conflit, de quasiment faire un film qui donne une pensée sur l'après. C'est-à-dire qu'on est dans des moments où il y a encore des gens qui sont emprisonnés en Iran, des Iraniens,
dont des Français,
dont des Français, dont des Européens, des Américains, enfin plein de gens de toutes les nationalités qui servent après d'échange, de monnaie d'échange diplomatique. Enfin, c'est absolument scandaleux. Et il y a un réalisateur qui fait un film sur l'après. Et ça, moi, je trouve ça absolument fabuleux au niveau cinéma. C'est-à-dire qu'il sert du moyen cinéma, mais encore une fois, avec un téléphone portable et filmé dans des voitures, pour nous parler de ce que le peuple iranien va devoir faire. C'est-à-dire qu'ils vont devoir pardonner, comme dans tous les conflits. Une fois que le conflit est arrêté, la seule manière de repartir en cohabitation entre différentes personnes, c'est de pardonner. Voilà, donc c'est vraiment un grand film au niveau du message. C'est un film un peu minimaliste au niveau de, formellement, parce que Jafar Panahi a été complètement contraint par justement ses interdictions de filmer. Voilà, donc c'est tous les avantages et les qualités. Mais c'est quand même grandiose d'arriver à faire quelque chose. Je sais pas, il y a Georges Kela qui parle de la musique. C'est comme s'il y avait un seul gars qui arrivait à faire un morceau de Led Zeppelin ou de Rolling Stone tout seul, quoi. Voilà, par exemple, ou un orchestre philharmonique, et où il y ait juste que deux musiciens qui arrivent à faire tous les instruments. Voilà. Donc c'est un peu ça, et avec une qualité top niveau. Donc c'est vraiment un grand, grand, grand film de cinéma.
Et c'est un sujet qui est très grave, voire philosophique, mais qui est sur un ton un petit peu léger, non, parfois ?
Oui, parce que c'est un peu aussi le... Ça, il faut connaître un petit peu le caractère perse, c'est-à-dire qu'ils sont très moqueurs les uns des autres, et la moquerie fait partie du jeu de la discussion, comme on peut, je sais pas, négocier, par exemple, quand on va à un vide-grenier, on négocie le prix, je sais pas, d'un disque ou d'assiette de la grand-mère qui sont 5 euros les 10 et vous voulez les acheter 4 euros, ben voilà, ça fait partie de là. Et là, la moquerie fait partie, et on voit ça, et il y a des moments où il hésite, lui, entre l'humiliation, la moquerie. Il y a des moments où il veut le tuer. Donc voilà, c'est tous ces questionnements internes qui sont dans ce puissant film.
Donc à voir, absolument.
Ouais, absolument, oui.
Alors on va changer de continent pour aller voir Leonardo DiCaprio.
On va voir Leonardo DiCaprio. On reste un peu en France. Après la bataille, le dernier film de Paul Thomas Anderson, qui réconcilie tout le cinéma mondial, à mon avis, tous les Américains. C'est-à-dire qu'on a, dans ce film, on a tout ce qu'on aime du cinéma américain. La qualité de la mise en scène, des acteurs, du montage, de la musique, de l'histoire, du scénario, il y a tout. Et c'est super bien filmé. Et pour une fois, il y a des bagnoles, il y a des flingues, il y a des courses-poursuites. Mais ce n'est pas un truc qui va à 1000 à l'heure, c'est fait presque à la limite comme un film européen. C'est-à-dire qu'on a tous les ingrédients du thriller américain, mais qui est fait calmement. C'est-à-dire qu'on ne veut pas en mettre plein la vue ou plein les oreilles. C'est, le pitch est assez simple. C'est un groupe de terroristes, de militants extrémistes, terroriste un peu fort, de militants extrémistes aux États-Unis dans les années 80, qui a provoqué quelques... Ça existait, ça s'appelle la French 75, donc c'est en hommage au mouvement français de 68 et des premières réflexions sur l'idéologie gauchiste, qui font quelques attentats, ils font sauter des bombes, tout ça, et le personnage principal, la leader, est une black américaine hyper puissante, et qui est en couple avec Leonardo DiCaprio, et elle tombe enceinte. Donc elle veut continuer son combat, donc elle confie sa fille à Leonardo DiCaprio, qui lui s'exfiltre complètement de ce mouvement et est protégé par différentes personnes qui sont adhérentes à cet mouvement politique. Sauf que ça se passe pas forcément toujours comme ça, c'est que les services secrets américains finissent par retrouver sa trace et retrouvent la trace de Leonardo DiCaprio et de la petite fille. 18 ans après, la jeune fille a grandi, et c'est la rencontre entre un colonel presque à la retraite qui est joué par Sean Penn et qui représente, si vous voulez, tout ce qu'on omit de l'Amérique, c'est-à-dire les suprémacistes blancs, racistes, homophobes.
Mais ça n'existe plus, ça, Jean-Sylvain Mizzen.
Ils sont au pouvoir. Donc dans ce film-là, on voit tout à fait le parallèle avec la situation de Donald Trump actuellement, c'est-à-dire que le personnage interprété par Sean Penn est le concentré de tous les fachos blancs américains que j'ai en horreur parce qu'ils se croient supérieurs aux autres. Et voilà. Donc c'est deux mondes qui s'affrontent. 2h45 de film, c'est somptueux. C'est vraiment un bonheur total de cinéma. Voilà. Et c'est les bons qui gagnent à la fin. Donc j'espère que ça va se passer comme ça aux États-Unis. Et que c'est Donald Trump qui va couler rapidement.
Donc c'est le second film à voir absolument. Alors le troisième, c'est un film français, non, je crois que...
Alors oui, après il y a deux films français qui sont sortis le 24 septembre. C'est le dernier film de Pierre Schloffer qui s'appelle Rembrandt, qui est un film qui a un super bon casting, qui se passe dans le milieu du nucléaire, c'est-à-dire que c'est la prise de conscience presque tardive, on pourrait dire, d'un couple de chercheurs en nucléaire qui installent des EPR, tout ça, qui sont complètement dans leur truc, des chercheurs, EDF nous demande de faire des trucs plus puissants, on fait des trucs plus puissants, et d'un coup, en voyant un tableau de Rembrandt, c'est pour ça que ça s'appelle Rembrandt, à Londres dans une exposition, le personnage interprété par Camille Cotin a ping, on a l'impression que ça se reconnecte sur une réalité et elle essaye de sortir de ce tout nucléaire. Sur le discours, c'est inattaquable à mon goût. La forme qu'elle laisse quelquefois un peu à désirer. Il y a un vrai flottement au milieu du film où on s'embête un petit peu. Ça redémarre à la fin, voilà. Mais donc ça vaut quand même le coup pour le casting. Il y a Romain Duris qui joue aussi dans le mari de Camille Cotin. Donc voilà, c'est un film français moyen. Je rebondis sur moyen, parce qu'il y a un autre film français moyen que je trouve qui s'appelle Classe moyenne. Donc pas mal de scènes ont été tournées pas très loin d'ici, dans les rues de Nîmes, enfin dans les campagnes nîmoises. Et c'est l'histoire d'un couple d'avocats parisiens. Puant, qui est, lui, c'est Laurent Lafitte. Vous voyez Laurent Lafitte, comment il peut être, comme il est bon quand il fait le gars à qui on a envie de mettre des claques à longueur de journée, qui débarque dans leur maison de campagne, qui est à Castillon-du-Gard, donc entre Nîmes et Uzès, et qui ont la relation avec les gens qui gardent leur maison toute l'année. Donc c'est la confrontation des classes comme ça dans un lieu restreint. Ça fait penser un peu à du cinéma de Claude Chabrol, vous savez, où il y a une charge au vitriol contre la bourgeoisie. J'aime pas beaucoup la fin qui est un peu trop grand guignol, ça me fait pas beaucoup rire, mais le message au début est plutôt sympa. Puis il y a quand même Laure Calamy qui joue, comment il s'appelle, pas Reda Kateb, enfin bon, il y a plein d'acteurs et d'actrices connus. Voilà.
Je crois qu'il y avait également un film sur le jazz, non?
Alors il y a un magnifique documentaire, il faut être en forme, qui dure 2h30, très 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 dense, et qui raconte comment les musiciens noirs américains ont été utilisés par le pouvoir américain pour aller dans différents pays, pour essayer de faire passer le message de la démocratie. Vous savez, c'est le grand truc des Américains, c'est d'importer la démocratie contre la volonté des peuples. Ils ont fait ça en Amérique latine, ils ont fait ça en Afrique, ils ont fait ça il n'y a pas très longtemps en Irak. C'est-à-dire qu'ils savent, eux, donc il faut que les gens les écoutent. Voilà. Et il y a...
En général, ça ne fonctionne pas d'ailleurs.
Ça foire assez souvent et ça fait des dégâts pendant des années et des années. On n'a qu'à voir la situation politique et les groupes encore extrémistes qui existent en Amérique latine. Et on se rend compte, ce film-là, les jazzman noirs américains sont utilisés par le pouvoir pour aller faire des concerts, aller rencontrer les leaders entre guillemets des oppositions, notamment en Afrique. Donc c'est passionnant, c'est très 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 dense, donc il faut vraiment être en forme, parce qu'il y a plein de moments où il y a à la fois des sous-titres et les qualificatifs des gens, premier ministre de l'Angola ou des choses comme ça. Donc quelquefois, il faut vraiment être en forme, mais c'est passionnant. Sur les gens qui s'intéressent à l'histoire de la musique, je me tourne vers Georges, elle va être obligée d'y aller. voilà. Donc c'est un riche film.
Très bien. Alors un dernier coup de cœur ou...
Un dernier petit pour les films qui sortent aujourd'hui. On a Nouvelle Vague de Richard Linklater qui est sur le tournage de À bout de souffle de Godard, que je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que je l'ai pas vu. Il y a le qui sort aujourd'hui, donc il y a Météor, le nouveau film français de Hubert Charuel. Ça vous dira rien comme ça, mais c'est le réalisateur qui avait fait Petit Paysan il y a quelques années, vous savez, il sort de ce paysan avec ses vaches.
Swan
Arlo,
c'était un excellent film.
Juste au bout de la rue là-haut, puisqu'il est du Zès, qui était présenté à Cannes. Donc c'est une histoire de ça se passe à Saint-Dizier, d'enfance, de jeunesse dans les années 80-90, et puis de parcours qui se séparent. Il y a un film dont nos politiques de gauche devraient aller le voir. C'est un film italien qui s'appelle Berlinguer, la grande ambition. Alors j'avoue que je connais pas l'histoire du communisme italien sur le bout des ongles. Et ce Berlinguer, il a été secrétaire général du Parti communiste dans les années 73-78. Au moment où il y a eu ça a fini un petit peu avec l'attentat d'Aldo Moro, la montée en puissance des Brigades Rouges, et on voit ce délégué général qui refuse d'aller au clash avec la démocratie chrétienne pour maintenir l'Italie dans une démocratie avec un parlement qui fonctionne, ce genre de choses. Donc voilà, je pense que tous nos hommes de gauche et femmes d'ailleurs devraient aller voir ce film où il y a un vrai talent de négociateur, de médiateur, et un gars qui fait passer la démocratie, la démocratie de son pays, avant ses propres intérêts personnels.
C'est d'actualité et je vous remercie Jean-Sylvain Nissen. Alors allez au sémaphore. Je vous propose une première pause musicale, non pas avec Johnny Winter, mais avec Johnny Montreuil. Alors, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais allez, on y va.
Ils ont voulu me virer de chez moi, ces gros bâtards, je suis maudit. Que j'ai traîné mes lattes, arrive pas, oublié ma banlieue chérie. Je me ruine le sang pour ces vautours, paye 1000 euros ton taudis. À mort fond dans mon arrière-cour, on ne m'appelait plus Johnny. Moi je rêve la nuit à mon petit coin de paradis. C'était pas beau, il faisait sombre. Bonjour les rats et les souris. Oh j'irai la nuit à mon petit coin de paradis. Oh, à ma petite fille, à ma chérie. Yeah. Oh, oh. J'appelle ça la ville lumière, mais tout est éteint à minuit. Bonjour les keufs, petits doigts en l'air, les vieilles roupières et leur mépris. Fini les meufs mais régulières, celles qui sont bêtes qu'on la teufrie. Oh, rincé comme une vieille serpillière, on ne m'appelait plus Johnny. Moi je rêve la nuit à mon petit coin de paradis. C'était pas beau, il faisait son, mais ça sentait bon la connerie. Ah, j'irai la nuit à mon petit coin de paradis. Oh, à ma petite fille, à ma chérie. Yeah, 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 yeah.
Dans le studio Jean Orsi de Radio Nîmes avec l'accent, et on continue ce petit paysage culturel avec Georges Brunet, la directrice de communication de Paloma. Alors vous venez d'écouter Johnny Montreuil qui est à l'affiche, quel jour?
Ce sera ce jeudi, le 9 octobre, ce sera dans le club, donc la petite salle de Paloma. Donc Johnny Montreuil, et c'est un double plateau puisqu'il y aura aussi le groupe de Montpellier, si je ne me trompe pas, The Michi Bichi Bar. Donc une soirée plutôt chanson rock, mais ouais, bien rock, pour démarrer le week-end dès le jeudi.
Ben je crois que c'est bien, non? Ça ouais. Met en forme là tout le monde, voilà, ça donne un petit peu d'énergie.
C'est ça, puis c'est un week-end chargé puisqu'on a repris les concerts à Paloma, et là, dès cette semaine, on est sur 3 dates directement. Le vendredi, vous avez aussi Neurotic Strangers, Avalon Bloom et Loons, donc 3 groupes, et c'est gratuit.
Et là, c'est quel style ça?
Pareil, c'est du rock aussi. On est vraiment sur 2 soirs où ça va danser et boire de la bière.
Mais avec modération.
Ah, bien sûr, bien évidemment. Non, voilà, ce sera dans le club également. C'est la soirée Local Heroes où notre programmation met à l'honneur des groupes locaux.
Alors on continue sur le rock si vous le voulez bien.
Oui, alors on n'en manque pas. Aussi le mardi 21 octobre, on aura la première soirée This Is Not A Love Night de la saison avec Sprints et Mule Jenny. Je ne sais pas si on prononce Mule Jenny, je ne sais pas, donc je leur demanderai. Et ça c'est le 21 octobre. Pareil, c'est dans le club et c'est seulement 8 euros. Les soirées This Is Not A Love Night, c'est les soirées dans la direction artistique du festival This Is Not A Love Song, et qu'on maintient un peu toute l'année pour toutes celles et ceux à qui le festival manquerait un petit peu. On en fait au moins une par trimestre, donc il y en a généralement trois dans l'année, au moins. Et donc la première, c'est le 21 octobre, et c'est 8 euros seulement pour deux groupes.
D'accord, oui, parce qu'en fait, il y a deux grandes salles, en fait, de théâtre. Enfin, bon, il y a une grande salle, oui. Plus ce que vous appelez aussi le club,
oui.
Qui est un petit peu plus réduit, c'est ça ?
Oui, et même on a trois, en fait, espaces dans lesquels on peut faire des concerts, puisqu'il y a aussi le patio. Pour celles et ceux qui sont déjà venus, avec la sous la boule à facettes, on a une petite scène sur le côté et on rentre très nombreux dans le patio. Et notamment, la semaine dernière, on a fait la première soirée arcade, qui sont des soirées électro avec le label Onirisme. Donc c'était le 27 septembre et donc c'était une soirée dans le patio. Vraiment le patio qui est plutôt calme d'habitude et là c'était transformé en dance floor. Et ça pareil, il y aura une soirée mensuelle avec Arcade, donc deux soirées qui se passeront pas toujours dans le patio parce que parfois il commence à faire froid, mais le reste de la saison ce sera dans le club. Donc le club qui lui fait à peu près 350 places, et ensuite nous avons la grande salle qui est à quasiment 1500 places.
Mais c'est également des ateliers, Paloma, il n'y a pas que des concerts. Alors on va peut-être, je crois que ça a repris hier, non ? Ou en début de semaine, non ? C'est ça ?
Oui, alors c'est vrai qu'on a plein de choses à faire. La journée aussi à Paloma, et pour tous les âges, il y a des ateliers jeunes publics, notamment d'éveil à la musique et des ateliers parents-enfants. Donc vous pouvez venir avec votre enfant et faire repartir avec tout un tas de petits outils pour travailler la musique avec votre bébé. Et puis des ateliers jusqu'aux adultes pour... les musiciens amateurs, amatrices qui veulent peut-être perfectionner le réglage de leurs instruments en répétition, par exemple. Ça, c'est un atelier qui a lieu samedi prochain. Donc, c'est de 15h à 18h. C'est des ateliers qui sont gratuits sur inscription. Tout ça, c'est dispo sur notre site. Vous vous connectez, vous avez directement l'agenda. Vous cliquez sur l'atelier qui vous convient et vous vous réservez. C'est des ateliers... les ateliers pour enfants, les spectacles pour enfants, ils sont à 6 euros. Voilà. Et les ateliers pour adultes, ils sont gratuits. Voilà.
Donc il vaut mieux être adulte qu'enfant.
Si tout à fait. De toute façon, les enfants n'ont pas d'argent. Donc...
Alors, est-ce qu'il y a d'autres coups de cœur sur la programmation ?
Ah oui, ben là, je pourrais tout vous lister parce qu'on a une saison qui s'annonce vraiment, vraiment géniale. Alors, au moins, il va falloir faire des choix.
Bon, le mois d'octobre et de novembre.
Allez, bien sûr. En octobre, il y a deux concerts que je mettrai en avant. Le premier, c'est Aimé Simone. Ça a lieu le samedi 18 octobre dans la grande salle. La musique d'Aimé Simone, c'est un mélange de plein de choses. C'est à la fois de l'électro, ça va parfois jusqu'au rap. C'est à la fois dansant et vraiment très intense au niveau des paroles. C'est quelque chose d'assez hybride et que je conseille. C'est pas un artiste qu'on voit tous les jours. C'est pas une musique classique. Vraiment, Aimé Simone le 18 octobre. N'hésitez pas. Et ensuite, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas ou qui ne l'auraient pas encore vu, Mézergue, le 23 octobre, c'est de l'électro, c'est un français. Enfin, Aimé Simone aussi est français, mais Mézergue, c'est un français. C'est vraiment un ovni musical. Et sur scène, c'est assez incroyable. C'est aussi de l'électro, mais sur scène, il est avec un térémine. Je ne sais pas si vous voyez cet instrument. C'est un... Je vais très mal le décrire, et désolé pour ceux qui jouent du térémine, mais c'est un instrument avec un système un socle en bois et une espèce de tige en métal, et où c'est simplement les mouvements du corps qui viennent faire des sons. En fait, le corps entre en résonance avec les ondulations. C'est incroyable à voir. Et donc, de l'électro, donc il est au piano, il y a des musiciens, et il joue du térémine là-dessus. C'est vraiment un concert à voir. C'est pas quelqu'un qui est derrière ses platines et qui bouge pas. Il y a vraiment plein de choses qui se passent. Et donc,
alors,
ça, c'est le 23 octobre.
Il reste des places pour ce concert.
Il reste des places pour les deux concerts.
Bon.
Ouais.
D'autres coups de cœur ?
Oui, d'autres coups de cœur. Il y a aussi Yamé le 16 octobre qui navigue entre chansons françaises et rap. Je pense que tout le monde connaît son titre Bécane. Il a été connu sur les réseaux sociaux notamment. Il est en ce moment en résidence pour préparer son concert à Paloma. Donc il passe ses journées chez nous et ça va être un très 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 chouette concert. Il reste des places. Donc ça, c'est le 16 octobre.
Voilà, bon, mais écoutez, je pense qu'on a fait le tour.
Oui, pour octobre, c'est déjà pas mal chargé.
C'est très bien, voilà. Bon, alors une seule date peut-être pour novembre, et puis on en termine.
Allez, une seule date. Je vais choisir Herman Dune. pour changer un petit peu d'ambiance. C'est un musicien français, il me semble, mais qui est parti vivre en Californie il y a très longtemps et qui fait de la folk. Et c'est vraiment très, 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 très beau. Ça fait je sais pas combien d'albums qu'il fait. Il est un peu... C'est de la musique un peu intimiste, mais ça va être une très, très belle soirée.
Merci beaucoup, Georges Bonnet. Et après le film, ben, vous allez en concert à Paloma. Retour dans le studio Jean Orsi de Radio Nîmes avec l'accent. Alors je disais tout à l'heure qu'Isabelle de Montfumain n'était pas présente, mais par contre elle a beaucoup travaillé. Et elle nous fait cadeau donc d'un entretien avec Estelle Garnier, la secrétaire générale du Théâtre de Nîmes, au sujet de la programmation de la nouvelle saison théâtrale.
Bonjour à toutes et à tous. Oui, nous sommes vraiment au début de cette saison qui s'annonce absolument enthousiasmante. Nous avons pensé pour les publics une programmation qui s'adresse à toutes et à tous. C'est-à-dire que nous proposons tous les genres, que ce soit le théâtre, le musique, la danse, le cirque, le jeune public. Donc autant d'entrées qui s'adressent aux différents centres d'intérêt des publics. Et nous, je dirais, notre ambition, c'est de créer des parcours, c'est de faire venir les publics sur leur choix coup de cœur et de les amener à découvrir des artistes auxquels on croit qui sont aussi nos coups de cœur.
Donc, l'année 2025-2026 s'annonce avec des spectacles vivants, du cirque, de la danse, des représentations même d'opéra, hein, puisque l'opéra reviendra en force au Théâtre de Nîmes. Et je sais que vous avez de fidèles auditeurs et auditrices qui viennent pour le théâtre et l'opéra.
Oui, avec le Barbier de Séville, qui est une création de l'Opéra de Reims.
Donc, pour compléter cette présentation, il faut dire aussi que vous avez des artistes associés à ces programmations, avec Rocio Molina et Dimitri Chamblas. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, s'il vous plaît ?
Il aime beaucoup amener la danse là où on ne l'attend pas. Pour lui, la danse, c'est un véhicule pour des rencontres, pour des projets absolument inédits. Et il a eu un vrai coup de foudre pour la ville de Nîmes, son joyau patrimonial. Et il a eu envie de cheminer avec nous, de découvrir ces lieux absolument incroyables, mais également ses habitants. On va lui consacrer une semaine, début novembre. Ce sera composé de trois propositions. La première, ce sera le duo mythique à bras-le-corps avec Boris Charmatz, qui est une autre figure de la danse absolument incontournable. Ce sont deux amis qui ont créé cette pièce très jeune, ils avaient 19 ans. Depuis, elle est rentrée au répertoire de l'Opéra de Paris, mais elle va complètement à contre-courant des codes de création de spectacles pour la danse contemporaine. Ils se sont dit qu'ils allaient la jouer, l'interpréter toute leur vie. Ça veut dire que cette pièce, elle vit avec eux, avec leur corps, qui évidemment ont changé en, je dirais, quelques petites années. Voilà, on est quand même sur un temps de presque 25 ans, 30 ans. Hein. Et l'expérience aussi les a amenés à modifier leur rapport à la pièce, à l'autre. Mais c'est une très, très, très belle histoire. C'est un duo mythique. On aura ensuite Self-Portrait, qui rassemble des jeunes de 16 à 25 ans. Alors beaucoup sont étudiants de l'Université de Nîmes, de l'École supérieure des Beaux-Arts ou du Conservatoire, mais on a aussi des lycéens et des personnes qui se sont inscrites individuellement. Ils seront 20 à créer avec Dimitri Chamblas pendant une vingtaine d'heures des solis qui sont des autoportraits et qui vont être inspirés de la relation de la danse à une autre discipline de leur choix. Ils seront vraiment portés par un élan collectif et cette expérience va amener à une restitution dans tous les espaces du théâtre le samedi 8 novembre à 17h. Le lendemain, autre projet absolument hors norme de Dimitri Chamblas, Dancing in a Yard. C'est un film documentaire qui a été réalisé sur tout le projet qu'il a mené avec des détenus de haute sécurité dans une prison près de Los Angeles. Des hommes qui vraiment n'avaient pas envie d'aller vers la danse parce que la danse c'est très stigmatisé, c'est pour eux trop féminin et ça ne correspondait pas au code de la masculinité qu'ils peuvent entretenir entre eux. Et la rencontre avec Dimitri Chamblas a changé leur vie, je crois qu'on peut le dire. Il les a amenés là où ils ne pensaient jamais aller, il les a amenés à se livrer, à se confier et ils sont parvenu même à produire un show. Donc ce sera une semaine vraiment intense et qui sera toujours émaillée de rencontres, d'échanges avec le public en présence de Dimitri Chamblas.
À quelle date donc ces propositions sont-elles pour convier pour le public ?
Ce sera du 3 au 9 novembre.
Parfait. Donc, et bien évidemment, l'actualité se diversifie avec d'autres propositions de programmation, notamment, et on pourrait en parler tout de suite avant de parler de la semaine des kids, la belle présentation théâtrale sur le chemin des glaces avec la compagnie de La Grande Mêlée et de Werner Herzog, avec une adaptation et une mise en scène de Bruno Guélin. Que vous pouvez nous parler de ce spectacle qui a l'air d'être assez fascinant.
Sur le chemin des glaces, c'est une vraie expérience de vie du metteur en scène Bruno Guélin et également de son comédien Clément Bertani. Ils sont allés sur les traces de Werner Herzog, qui est un réalisateur allemand de grande renommée, et sa grande amie et sa mentor aussi, Lotte Eisner, était sur le point de mourir à Paris. Elle lui envoie un message et Werner Herzog est totalement bouleversé et lui demande de l'attendre. Il est à Munich et il part à pied. Et il fait le chemin de Munich à Paris. Et le plus beau, c'est que non seulement Lotte Eisner l'a attendu, mais elle a vécu encore au moins 10 ans de plus. Voilà, donc c'est une histoire très très belle. Et Bruno Guélin et son comédien sont partis aussi sur le chemin qu'avait effectué Werner Herzog. Et ça les a complètement transformé. C'est donc une aventure initiatique et ce que nous avons eu aussi envie de partager avec les publics, c'est leur parole un petit peu plus libre et qui sera aussi présentée avec des photos qu'ils ont prises tout au long de cette marche. Donc on a prévu une rencontre le lendemain de la représentation, le mercredi 15 octobre à 12h au bar du théâtre, et ça permet d'échanger et de vivre avec eux ce qu'ils ont pu emmagasiner comme émotion et spiritualité.
Donc c'est du théâtre pur là, hein ?
Complètement.
Et puis il y a un autre spectacle dont vous vouliez me parler, c'est Haydn, la compagnie Face B de Sarah Cerneau, qui aura lieu le mardi 9 décembre à 20h, le jeudi 11 et samedi 13 décembre à 20h et 17h.
Sarah Cerneau est une interprète qui a travaillé avec les plus grands, que ce soit Akram Khan ou Amala Dianor. Et aujourd'hui, à un âge où elle acquiert plus de maturité, elle a eu envie de fonder sa propre compagnie par engagement vis-à-vis de la société. Et elle, dans Eden, elle a voulu aborder cette thématique qu'elle a elle-même traversée plus jeune, puisqu'elle a grandi dans les quartiers de Toulouse. Et c'est la question des vêtements que portent les femmes dans les quartiers pour se camoufler, pour se protéger du regard des hommes, du harcèlement ou de l'enfermement genré. Que la femme serait juste un être fragile, pour elle, c'est une conception qui lui paraît insupportable. Et donc, elle a mené des ateliers avec des femmes. Elle a recueilli aussi leurs témoignages, leurs ressentis. Et à partir de ces paroles, elle a créé Eden.
Et puis, pour finir, vous allez nous parler de cette fameuse semaine des kids.
Oui, c'est une semaine qui est un rendez-vous devenu incontournable, je pense, hein, pour les familles limoises. Ça a lieu pendant la première semaine des vacances de la Toussaint. Et notre objectif est de réunir parents et enfants pour vivre des moments qui sortent du quotidien, qui sont dans le partage du sensible, de l'imaginaire, dans le rire, l'émotion. Ça semble fondamental pour créer ces moments qualitatifs, qui sont moins dans range ta chambre, viens vite à table, et qui peuvent parfois un petit peu abîmer, voilà, notre relation au quotidien. L'heure des kids, ça s'adresse aux enfants dès un an, puisqu'on aura un spectacle volatile ombré qui sera présenté au Périscope, un joli théâtre d'ombre extrêmement délicat qui va retracer le parcours des oiseaux qui sont là, présents dans nos vies, et ça nous amène à aller vraiment vers la contemplation. Nous aurons un deuxième spectacle, Fuega, qui sera présenté dans les centres sociaux Malraux et Jean Paulhan, accompagné aussi d'ateliers gratuits ouverts à tous sur inscription. Fuega, c'est un petit facochère qui découvre le monde, et cette histoire est racontée à hauteur d'enfant, puisque c'est la voix d'un enfant qui relate son aventure. Et troisième rendez-vous, Mu, de notre artiste associé Marion Musat, qui est chorégraphe et qui aime beaucoup travailler avec les amateurs. Dans Mu, elle présente un spectacle pour les plus grands, plutôt à partir de 7 ans, qui s'inspire des gestuels, de nos rituels collectifs, j'ai envie de dire des temps ancestraux, jusqu'à la gestuelle que l'on peut retrouver dans les jeux vidéo, en passant par le carnaval. Donc elle va convoquer nos imaginaires collectifs et comment ces gestes que nous avons observés peuvent aussi déterminer notre manière de bouger. On aura des sculptures qui sont créées par une plasticienne très originale, Émilie Faïf. Et on proposera également un stage qui s'adresse aux jeunes de 7 à 12 ans qui pourront associer les arts plastiques, ils vont trouver des matériaux de récupération pour créer des paysages fantasmagoriques en écho avec les sculptures du spectacle. Puis sur un deuxième temps, dans la même journée, ils danseront en s'inspirant, là encore, de tous les gestes de nos rituels collectifs. Donc ça va être un moment complètement immersif et qui va leur permettre de vivre intensément, j'irais même, un processus artistique.
Et de c'est justement à quel moment cette proposition, parce qu'elle a l'air d'être assez formidable, puisque vous travaillez à la fois avec des artistes confirmé, mais en même temps associant les jeunes enfants. Donc ça, c'est quand même assez original.
Oui, c'est notre exigence, c'est d'amener l'art à tous et montrer que chacun peut se sentir concerné. Je crois vraiment que le plus important, c'est de susciter la rencontre, et il y a des alchimies absolument magiques qui se produisent entre les artistes et les publics. Ça fait maintenant 20 ans hein, que je travaille dans les théâtres, la danse, et je peux vous assurer que j'ai vu des publics complètement se métamorphoser, s'ouvrir à vie. Je pense que vraiment l'art peut provoquer des déclics complètement extraordinaires.
Donc la semaine des kids, elle est présente de quelle date à quelle date ?
Oui, elle est présente la première semaine des vacances de la Toussaint, du 20 au 25 octobre.
De Radio Nîmes avec l'accent, pour la fin de notre émission. Alors la fin de notre émission, c'est un cadeau d'Isabelle. C'est un entretien avec Maïté Tournier, la responsable de la médiation culturelle du SPOT, ainsi qu'avec Laurent Kilani, le directeur artistique de l'expo de OUF.
Oui, bonjour Isabelle. Du coup, 13e édition de l'expo de OUF. Donc on est sur une thématique en effet qui est un petit peu différente cette année. On vient interroger la question du micro street art. Qu'est-ce que le détail dans le monde de l'art dans l'espace public ? Peut-être que ça parlera à certains quand on parle du Space Invaders ou ce genre d'artistes qui sont connus internationalement. Aujourd'hui, on n'en a pas encore trop traité, et c'est assez rare aussi en France de venir dans les musées à ciel ouvert traiter purement que de cette question. Et nous, ça nous tenait à cœur justement de l'aborder dans une thématique, donc avec une baseline un peu pour cette année, qui est nos Turfu Lututu. Nos Turfu pour évidemment le No Future, Lututu pour dire qu'en fait ce No Future on n'en veut pas vraiment, on continuerait à se battre, c'est un peu le symbole d'une révolution joyeuse, colorée, mais intense. Et pourquoi le détail? Parce que justement, bah en fait, ce qu'on va retrouver aussi au détour d'une rue, ou ce qu'on va penser être plus petit, peut-être moins imposant, et bah, il a tout à fait sa place aussi. Et parfois, de grands symboles malgré sa petitesse en taille. En tout, on a une trentaine d'artistes au sein de la galerie. Donc on a toujours cette résonance intérieure-extérieure pour essayer de présenter une grande majorité, une pluralité justement de créations artistiques. Petite différence donc avec le micro street art, cette année on a décidé donc de proposer plusieurs murs, plusieurs créations par artiste. Donc au lieu d'en avoir une petite dizaine comme chaque année, là si je ne dis pas de bêtises, on en a fait plus de 30 déjà en une semaine. Donc nouvelle aussi façon de voir les choses, d'organiser, de coordonner tout ça pour l'équipe du spot, mais très intéressant, avec des artistes qui sont aussi dans une démarche différente pour certains de ce qu'ils font habituellement. Donc soit c'était des personnes qui faisaient déjà du micro street art ou qui avaient envie de l'engager. On a aussi ouvert cette année à des artistes qui travaillent dans l'espace public mais qui ne sont pas caractérisés comme muralistes ou street artistes dans la mesure où ils ne font pas forcément de peinture. On a cette année du coup de la sculpture avec Monsieur BMX ou José et Odette. On a Eva Césir qui vient de travailler certes la peinture mais qui habituellement aussi vont travailler l'installation. On a Stéphanie Châtelet qui est mosaïste nimoise. Donc voilà, on a essayé de faire vraiment un melting pot et de présenter une pluralité de compétences, et ce qui permet justement aussi une forme de montée en compétences entre artistes, avec des artistes à la fois comme d'habitude émergents et renommés, ou en tout cas voilà, reconnus et professionnels depuis longtemps.
Je crois qu'il y a plusieurs manières de découvrir ce parcours d'ailleurs, avec le vélo qui va intervenir ou avec d'autres médiations, j'imagine, culturelles, pour que le public et les habitants puissent se sentir toujours en proximité avec les artistes. Comment vous avez conçu votre parcours?
Alors comme d'habitude, on travaille donc sur Gambetta et Richelieu. Là, on a essayé à la fois de compléter le parcours existant et de l'élargir un tout petit peu. Donc on commence à monter un peu plus sur les hauteurs de Gambetta vers la Croix de Fer. On continue à répandre sur Richelieu et aller un peu plus aux abords. Et c'est vrai que cette envie, parce qu'on travaille avec beaucoup d'artistes et même l'équipe, on a un lien avec le vélo et la mobilité douce. Donc là, on a proposé des sorties à vélo qui nous permettent de voir beaucoup plus de fresques que d'habitude, d'avoir aussi une réflexion différente, d'arborer les rues d'une autre manière. Et ça nous tient à cœur, parce que c'est pour ça qu'on travaille sur un plan aussi de parcours dans l'agglomération. Et toujours une envie d'explorer le lien entre l'environnement et la création artistique et comment celle-ci peut réellement amener une amélioration du cadre de vie. Et évidemment, ce lien avec les habitants qui est très important. Là, on vient de passer quand même donc les semaines de chauffe de ouf, comme on appelle. Toutes les personnes qu'on côtoie dans la rue, les propriétaires. Alors, je dis pas qu'évidemment, c'est à 100% validé par tout le monde. Et heureusement, on est aussi là pour libérer la parole et développer l'esprit critique, échanger sur le goût et les couleurs, la manière de faire. Mais vraiment, l'accueil est quand même toujours aussi fort et bon. Et moi, les paillettes dans les yeux que je peux voir au quotidien nous permettent de révéler qu'il faut continuer, à se battre et à mettre de la couleur dans nos rues.
Oui, on l'avait vu l'année dernière, hein, il y avait un lien très fort entre les artistes et les habitants, et c'est ce qu'on recherche. Alors, est-ce que vous pouvez me parler de Brockovich, que l'on va interroger après? Quel est son parcours et qu'est-ce que vous pouvez nous en dire?
Brockovich est un artiste dont ce n'est pas le seul métier, donc ça a une résonance très forte avec sa manière de créer, car voilà, il travaille dans le travail de la montre, comment on décore les montres de luxe en Suisse, etc. Donc vraiment avec un travail d'orfèvrerie et d'une précision extrême, mêlé à un amour pour les cultures urbaines. à cet environnement qu'on peut retrouver depuis les débuts au spot. Donc il y a comme ça des mondes qui se rencontrent, qui se confrontent un peu, mais comme un peu tout ce qu'on fait aussi ici, c'est donc devenir un ami de longue date, parce qu'il y a beaucoup de malice à la fois dans ce qu'il est, dans son personnage et dans ce qu'il offre dans ses créations. Et voilà, je sais qu'il nous concocte de jolies surprises à retrouver, notamment dans le quartier Richelieu, parce qu'on avait envie de créer quelque chose d'un peu nouveau. Pour ceux qui connaissent ce quartier, on a perdu énormément de boutiques, de commerces. Donc, quand j'en ai parlé avec lui, quand l'équipe du spot en a parlé avec lui, on s'est dit, bah tiens, en fait, on va remettre des commerces, mais ce sera des tout petits commerces, des tout petites boîtes qui reprennent, bah, justement, les épiceries, les boulangeries disparues. Donc là, les jours prochains, on va aller les déposer ensemble pour parler de ça, en fait, de cette disparition aussi, qui est due à plein de facteurs sociaux et sociétaux. Mais pour nous, c'était important de pouvoir l'interroger aussi avec, bah, du coup, les habitants.
Je suis avec Laurent Kenani, le directeur artistique de l'exposition de Ouf, qui va nous parler un petit peu de ce qu'est le mini street art.
Voilà, ou micro street art, et qui en fait c'est comment on s'intéresse aux tout petits. On est un peu dans une période du toujours plus, toujours plus grand, et au point où notre planète ne survit pas à ça. Et nous-mêmes, sur ce projet d'Expo de Ouf, on a bien vu des murales et les plus grandes étaient applaudies avec un effet waouh. Et en même temps, on a vu s'installer tout au long de cette construction, un petit peu en parallèle, comme une sorte de off à l'Expo, des tout petits formats. Comme Space Invader que vous connaissez bien, cette base de mosaïque et ces petits aliens venus du jeu vidéo et où maintenant il est connu dans le monde entier, bah c'est ce principe-là, comment inviter des artistes qui sont plutôt sur le tout petit, mais qui va avoir la même charge poétique et du coup, pour nous, le même impact et le même intérêt artistique qu'une œuvre monumentale. Et en plus, ça nous permet effectivement de rebondir sur notre thématique, nos turfus lutulu, qui parle justement un peu de la suite de demain et de cet avenir.
Oui, et puis c'est aussi la contestation, en fait, d'une certaine manière, parce que ces micro-street art, elles abordaient l'idée de l'architecture, mais dans une revendication quand même au départ. C'était ou s'intégrer, ou au contraire être en différence, il me semble.
Oui, c'est une approche, c'est-à-dire qu'en fait, alors qu'on convoquait des artistes pour presque les institutionnaliser, le festival il a 13 ans, on est devenu, on est rentré dans le patrimoine urbain, on a des artistes qui maintenant vivent pleinement de ces métiers, et en parallèle on avait ces personnes qui s'invitaient toutes seules sur le parcours pour produire des choses, sans qu'aucune des éditions n'ait fait un arrêt sur image sur leur travail. Moi je viens vraiment de ce qu'on appelle les arts de la rue, qui s'inscrivent dans l'espace public, c'est-à-dire comment on s'inscrit dans une architecture, on parle de projets situés, de faire des projets in situ, et ben là c'était un peu ça, c'est-à-dire pouvoir proposer à des artistes des repérages. Donc on s'est baladé beaucoup, on leur a montré toute une série de spots différents, et c'est ces lieux-là qui les ont inspirés. Tout à l'heure, en off, on se parlait de Odette et José, qui font des chimères. C'est-à-dire qu'en fait, ils se baladent dans la nature. Là, ils vont trouver du bois, des coquillages, des ossements, des choses. Ils vont prendre cette base-là, ils vont ajouter des résines, ils vont ajouter de la feuille d'or, des choses comme ça, puisque lui est graphiste et elle vient plutôt de la restauration d'art. Et grâce à ça, ils s'inventent un personnage, une chimère. Et la chimère est adaptée en fait à son emplacement. Donc là on a la chance à la pointe du périscope d'avoir pu leur offrir une très belle chimère, et puis il y a dans la rue de la Vierge une niche où probablement il y a eu une vierge dans cette niche, et là maintenant elle accueille une chimère d'Odette et José.
Et donc il y a également un autre artiste que je trouve assez intéressant, qui est un urbaniste et surtout un céramiste, qui s'appelle Pablo Savon. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment il a travaillé avec cette matière de céramique ici pour cette exposition de Ouf ?
Effectivement, comme vous avez pu le voir maintenant, je suis à ma cinquième édition, j'essaye de sortir, de continuer à sortir du cadre, de continuer à avoir une expo un peu ouf, et notamment de sortir d'une esthétique années 80 où le street art représentait beaucoup de graffiti, donc de lettrage, ou alors de portraits, de visages, ou des animaux, et beaucoup de couleurs. Bon, bref, une fois qu'on avait fait le tour de ça, comment on fait évoluer une identité ? On est 45 ans plus tard. Elles sont où les esthétiques dans l'espace public ? On s'est aperçu qu'il y a plein de plasticiens complètement différents qui proposaient des choses. Et Pablo Savon a la particularité d'être effectivement céramiste. Et ça l'a intéressé d'abord de reprendre les lettrages du street art. Donc il a commencé ses essais comme ça. Maintenant, il en est à fabriquer ses œuvres. Donc là, il nous en a fait deux, une dans la rue Astruc et une autre dans la rue Crucimel. On a un objet de très grande qualité, on est sur du travail d'art, comme on dit, et voilà, là, selon quel angle vous choisissez, vous verrez que l'œuvre vous renvoie la lumière différemment, comme des roses noires qui viennent habiller cette façade. On est très loin de l'identité street art à la bombe, effectivement, de ces années 80. Et là, on est vraiment sur autre chose. Comment on habille l'espace public. Et on est ravis d'avoir pu l'accueillir sur l'événement.
Et puis, dernière question, comment va le spot actuellement, puisque vous avez quand même vécu des moments un peu difficiles financièrement, et donc on voudrait un peu savoir si les choses se mettent peu à peu en ordre de marche.
Alors oui, effectivement, on avait prévenu sur une édition qui annonçait que ça allait être chaud, souvenez-vous, où il y avait cette dégringolade que le spot a vécu, a failli fermer ses portes, et c'est grâce au soutien des habitants, des institutions qui ont pu se pencher au bord de ce berceau, mais pas assez, et du coup, c'est aussi parce qu'on a des salariés qui sont partis, malheureusement, que on a réussi à maintenir un équilibre. Cet équilibre, il va être maintenu là jusqu'en 2026, mais on vous cache pas que le climat ambiant est loin d'être rassurant. C'est la panique totale sur tout le secteur de l'économie sociale et solidaire et du monde associatif. Donc là, je parle même pas de la culture en direct, on parle de toutes les formes qui sont portées par les associations, donc ça veut dire le sport, mais aussi la santé, mais bref. Ça s'annonce pas bien, il y a une vraie vision du monde qui n'est plus partagée. On a toujours dansé en temps de guerre. L'humain est important, on vit pas pour travailler, on vit effectivement pour passer des bons moments en famille, pour respirer, être en pleine nature et en bonne santé, et non pas pour tout ce qu'on nous programme et nous organise.
Dans les plaines du Far West, quand vient la nuit, les cow-boys près du bivouac sont réunis. Ils fredonnent au son d'un harmonica une vieille chanson de leur beau Texas. Et leur chant est répété par l'écho syncopé.
De retour dans le studio Jean-Orsi de Radio Nîmes avec l'accent pour prendre congé de nos auditeurs et les remercier de leur fidélité en écoutant cette très belle chanson d'Yves Montand dans les plaines du Far West. Cette émission de l'art à Nîmes sera rediffusée mercredi 22 octobre. Elle sera disponible en podcast sur le site internet de l'émission. Nous nous retrouverons dans un mois, le mercredi 12 novembre, pour une nouvelle émission de l'art à Nîmes. J'ai une dernière chose à vous dire. Ce week-end, c'est la collecte départementale des Restaurants du Cœur. Dans une cinquantaine de supermarchés, des bénévoles des Restos du Cœur seront présents pour vous accueillir et pour recueillir vos dons. Des dons principalement de nourriture, mais ça peut être également des dons d'hygiène. Alors n'oubliez pas, vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 octobre, soyez généreux. À très bientôt.
Une vieille chanson de l'arbo Texas, bully ho, bully 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 ho, bully 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 ho. les plaines du Far West quand vient la nuit, dit holy ho. Les cowboys près du bivouac sont endormis.